amis.
Salut Charline.
Attention, il a l'air en forme.
Ah oui, pour une fois, on a un invité qui change le monde.
Ah, c'est pas un chanteur donc.
Mais pourquoi il vient chez nous alors?
Pardon.
Non, mais ça fait quand même 3 ans qu'on essaye de changer le monde. Et franchement.
Et quoi?
Non, mais rien.
Ouais, donc c'est qui?
C'est Nicolas Chaban.
Voilà. C'est un entrepreneur qui veut remettre le producteur au centre de la démarche commerciale.
Voilà. J'ai rien pigé. Bon,
en gros, il trouve important que les producteurs de lait soient bien payés. Ouais. Donc il a créé une marque de lait qui s'appelle C'est qui le patron?
Ah, ça mélange entre Michel-Édouard Leclerc et José Bové.
C'est ça. Il est devenu célèbre en vendant des légumes moches.
Ah, il vend des radis.
Bon, c'est pas moche un radis.
C'est moche un radis. Non. Un radis, c'est une aubergine qui s'assume
non,
pas.
Non, ça n'a rien à voir.
Non, mais attends, si, c'est pas le problème. Il insulte les radis. Bon, alors, excuse-moi, mais un topinambour, ça, c'est vilain.
Mais non, un topinambour, c'est pas vilain, c'est dégueulasse.
Alors, attends, monsieur, je sais tout là. Oui. C'est quoi le plus beau légume?
Oh, c'est pas le problème. Oh,
si, c'est
hein.
Le problème. Si. Le plus beau légume, c'est le chou de Bruxelles. Parce que c'est beau, c'est raffiné, comme tout ce qui vient de là-bas.
Mais il est fou, tu peux pas comparer ces petites crottes vertes dégueulasses à la noblesse d'un brocoli.
Mais Charline, mais tu peux pas laisser dire ça.
Mais on vous a fini, oh. Les légumes moches, c'est tous les légumes.
Même les radis.
En fait, il y a des beaux radis.
Bah oui, il y a des beaux radis.
Et des radis moches. Dans une salade de radis, ça ne se voit pas, hein, donc il faut vendre tous les légumes, voilà, contre le gaspillage.
Ah, l'idée c'est qu'il y en ait des moches mais consommables.
Voilà, c'est ça.
Comme pour les femmes en fait.
Tu vois, Alex.
Mais quoi,
ça c'est une vanne moche, je sais pas de quoi, on va pas la mettre dans l'émission.
Non, mais tu viens de dire par rapport au gaspillage.
Bah, oui.
Non, mais parce que les vannes moches elles ont mauvais goût, et pas les légumes.
Ah, voilà. Donc Hanouna en fait c'est le topinambour de la vanne.
C'est ça.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui mène campagne dans la circonscription de l'actualité. Et voici les 3 informations qui vont être parachutées. Vladimir Poutine a été reçu à Versailles. Déployer les fastes de la monarchie pour bomber le torse, ça on sait faire. Mais l'équipe de Macron y a mis beaucoup du sien aussi. Hein.
Je te remercie de m'avoir laissé seul avec les Ruskov. Ils m'ont fait boire des litres de vodka. On a topé, retopé, je sens plus mes doigts.
Même le plombier est ubérisé. Le coiffeur aussi, le jardinier, le déménageur. Bref, l'artisanat est concurrencé par des particuliers qui proposent leurs services sur une plateforme internet.
Ouais, petit, t'aurais pu tenir quelqu'un à mes côtés. Les petits cons qui veulent aller plus vite que la musique, ils se cassent toujours la gueule.
L'audace, c'est la capacité à prendre des risques. Qu'est-ce qui fait que certains sont pleins d'audace et d'autres moins? Allons voir chez ceux qui n'en ont pas du tout.
Vous êtes mou, là. Faut vous secouer, hein. Vous êtes ectoplasmique.
Oh, dirais-moi qu'on fait de rédaction. Et moi, je suis accompagnée de celui qui rit de l'audace des autres. C'est Alex Vizorek.
Mais oui, bonjour à tous. Et aujourd'hui, que des comédiens de talent autour de la table. 17h20, prix d'interprétation masculine pour celui qui est capable de nous interpréter ses chroniques en nous faisant croire qu'elles ont un sens compréhensible par quelqu'un d'autre que lui. C'est Hippolyte Girardot, bonjour.
Mais bonjour Alex.
Et de quoi on va parler?
De l'été de l'amour.
Oh là là, ça c'est pour vous. 17h30, prix d'interprétation ex aequo pour son interprétation de Je fais semblant de poser une question, mais au fond, je sais ce que j'aimerais que tu répondes. C'est Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui, j'ai contacté Alice Gautreau. Elle est sage-femme sur un bateau en Méditerranée et elle vient en aide aux réfugiés. Une mission qui fait rêver, j'en suis sûr, Juliette Arnaud.
On n'a pas le droit de boire sur le bateau.
Ah non, autant pour moi.
Et enfin, 17h40, vous l'avez entendu rire, prix d'interprétation féminine pour son rôle dans le biopic de la vie de Juliette Arnaud. Elle était formidable dans le rôle de la bouteille. C'est vous, Juliette Arnaud, bonjour.
Oui, bonjour.
De quoi on parle?
Je suis super contente parce qu'aujourd'hui, c'est enfin le jour où je peux vous parler d'un de mes écrivains préférés vivants. Je précise. Essayez. Je vous dis pas c'est qui.
Ah d'accord. Surprise.
Et voici celui qui change le monde, mais qui aujourd'hui a tout annulé pour nous. Vous commencez par créer un réseau solidaire de stations de lavage de voitures sur les parkings de grandes surfaces où vous employez des personnes en difficulté professionnelle. C'était en 96. Ensuite, vous vous penchez sur le sort de la fraise de Carpentras, dont vous parvenez à faire la promotion jusqu'à l'Élysée. En 2009, vous créez la marque Le Petit Producteur, qui valorise le travail des producteurs locaux avec même une photo sur les emballages. Vous créez aussi le collectif Les Gueules Cassées pour que puissent être vendus les fruits et légumes moches. Votre dernière idée, c'est la marque C'est qui le patron, la fameuse brique de lait dont le patron, c'est le consommateur. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Je suis Nicolas Chaban.
Oui,
la classe.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bienvenue chez nous, Nicolas Chaban.
Merci beaucoup de m'accueillir.
Vous êtes venu avec plusieurs produits, parce que vous avez décliné un concept toute votre vie, qui était le concept de changer le monde, quand même.
C'est bien dit, c'est bien résumé.
On va démarrer peut-être ce que l'auditeur a pu croiser le plus souvent ces derniers temps, c'est votre fameuse brique de lait. Car C'est qui le patron? C'est la première marque qui a été conçue par les consommateurs. Le but étant de rémunérer les producteurs au juste prix de leur travail. Pour ça, vous avez fait appel d'abord à une communauté de citoyens, ces gens qui étaient d'accord pour que le lait leur coûte par exemple 4 euros de plus par an, pour que le producteur soit justement rémunéré, que la vache ait de la bonne nourriture, qu'elle soit dans de bonnes conditions. Et ça donne cette brique, le lait, Guillaume, vous l'avez en main, vous pouvez me dire ce qu'il y a dessus.
C'est du lait de vache, hein, donc ça ne convient pas aux humains, mais c'est bien quand même. C'est une... Fallait pas me demander. Je suis désolé.
Contentez-vous de dire que c'est sur la brique.
C'est une bonne initiative, a priori. L'alimentation des vaches est garantie saine.
De le faire moi-même. Alors, ce lait rémunéré au juste prix, rémunère au juste prix son producteur, c'est tout ce qui est écrit sur la brique de lait. La marque du consommateur, c'est qui le patron? Nicolas Chabanne, là, ça représente, pour l'instant, vous avez vendu combien de briques de lait dans toute la France?
Il y a eu 10 millions de briques de lait en moins de 6 mois. Au-delà du chiffre, c'est ce qu'il y a derrière. C'est un grand espoir parce qu'il n'y avait pas de bureaux, pas de commerciaux dans les magasins. Des consos qui ont dit en plein mois d'août, on est prêt à mettre 4 euros de plus. Et puis finalement, ils sont allés acheter en magasin. Et c'est devenu, c'est toujours une photographie qu'on aime bien signaler, mais c'est la grande distribution qui nous a dit que c'était le produit le plus vendu en tant que nouveau produit depuis 30 ans.
Ah bon?
Donc il n'y a plus besoin du monde d'avant pour vendre des produits équitables.
Et cependant, malgré ce chiffre énorme, ça représente 0,57% de la consommation de lait en France sur un an. Donc ça veut dire qu'on peut grandir et qu'il y a de plus en plus de familles de producteurs qui peuvent venir participer.
C'est vrai que c'est un début, mais on voit, ces 10 millions étaient vendus quasiment que chez Carrefour au début. C'était la première à l'avoir mis en place. Maintenant, il y en a 6 autres. Et on va pouvoir aider beaucoup de familles. On se dit toujours, si on met 60 millions de Français dans un stade et qu'on leur dit, voilà, contre 4 euros par an, vous allez aider des producteurs et les sortir d'une situation dramatique. En plus, vous allez savoir d'où vient le lait, comment il est fait, pas d'OGM dans l'alimentation. Est-ce que vous les mettriez, ces 4 euros? Donc c'est une affaire de temps, on l'espère. Il faut que ça arrive jusqu'aux oreilles de tout le monde pour qu'il y ait de plus en plus de lait acheté.
Est-ce que vous ne faites pas un peu de l'aïkido avec le marketing? C'est-à-dire que vous profitez de la force du marketing pour l'utiliser à bon escient pour ce produit-là. C'est-à-dire que le fait de dire ce que vous venez de dire là, ça fait plaisir à l'acheteur.
Ah mais nous, on en rêve que de ça. Quel que soit l'argument, dans la mesure où il est sain, il est vrai, il est transparent. On a fait une coopérative derrière la structure. Il n'y a pas une start-up avec des fonds et des banques. Il y a une société coopérative. On peut être actionnaire pour 1 euro, on ne peut pas mettre plus. Tout le monde est actionnaire avec les mêmes droits. Et puis, c'est vraiment la marque du consommateur. Donc, c'est vrai que c'est du marketing, mais finalement, une espèce de no-marketing un peu renversé. Il y avait un nouveau confrère là, de France Inter qui disait que c'était l'inversion du paradigme. Je n'ai pas compris encore ce qu'était...
On l'a envoyé sur France Culture.
Non, mais c'était cette inversion-là. Ça veut dire quoi? Avant, on fait un produit, un lait ou un autre produit. On est en réunion à 20 et on envoie de la pub pour essayer de faire acheter le produit. Là, les consos, grâce au digital, aux réseaux sociaux, se mettent en amont, décident des critères. 8, ça prend 5 minutes. On sait ce qu'il y a derrière, on n'a plus besoin de pub pour nous raconter l'histoire et on achète un produit qui correspond à nos attentes.
Et Nicolas Chabanne, faites-nous votre camelot là, parce que justement, ce principe de participer de marque citoyenne, ça s'applique aussi au jus de pomme, ça va s'appliquer au vin aussi, si j'ai bien compris. Là, vous avez amené un paquet de céréales. Si vous êtes sur franceinter.fr, venez voir la vidéo. Allez-y, c'est la minute camelot.
Alors, ça ne me dérangera pas énormément, mais en fait, vous avez... Ça, c'est tout anti-gaspi. Ça, c'est les céréales gueule cassée. Parce que c'est la démarche qui est d'abord la nôtre au départ. On s'est fait surprendre par le succès de celle-là.
Du lait, mais
au départ,
les fruits et légumes moches et les gueules cassées, c'était vous. Hein.
Voilà, si vous trouvez ces céréales, vous verrez, à l'œil nu, on ne peut pas voir la différence. Il y a 450 tonnes par an dans une usine près de Strasbourg qui sont jetées parce que l'ordinateur, avec le cahier des charges, a décidé qu'à 3,2 mm, ça n'était plus dans le cahier des charges. Elle est parfaitement bonne, mais elle est écartée. Elle peut pas être donnée aux animaux parce qu'elle est au chocolat et elle est jetée. On s'est dit, on la remet sur le marché et on la vend 30% moins cher.
Vous l'achetez à qui, du coup?
Alors, on l'achète à l'usine qui jetait.
Eh oui.
D'accord. Nous, on n'achète rien, en fait. On a fait un principe de licence, mais ces céréales sont sauvées. C'est 30% moins cher et tout le monde y gagne.
Et breaking news. Juliette Arnaud tient dans ses mains la bouteille de jus de pomme. C'est vrai, mais j'arrive
Faites
pas à l'ouvrir.
Faites des captures
d'écran. On va la déguster, non, Nicolas Chabanne. On va avoir l'occasion d'y revenir.
Elle est tellement jolie. Elle s'appelle Moi Moché Bon.
Ça, on dirait, ouais. Mais c'est 3 jeunes. On les a aidés à...
Thomas, Jérémy,
voilà.
C'est vrai.
Et ben voilà, c'est 3 Strasbourgeois. C'est pour la première fois, il y a des pommes ici qui étaient des pommes de table, qui étaient jetés pour des défauts d'aspect et qui deviennent un jus. Voilà,
c'est... Et ça se retrouve dans les supermarchés aussi?
Voilà, pareil, ouais. Alors ah bah je ne vais pas faire de pub, mais il y a...
Non, non, bah vous savez, maintenant sur France Inter, c'est parti, il y a la pub commerciale, alors une minute de plus ou de moins, surtout si c'est citoyen, Nicolas Chaban, allons-y. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h, avec toute l'équipe, il y a Hippolyte Girardot, Juliette Arnaud, ouais, on va goûter le jus de pomme, évidemment, qui change le monde. Pierre-Yves Le Roland à la technique, qui nous met un petit peu de musique dans les oreilles, Anne-Sophie Ladonne à la réalisation. Toute l'équipe est derrière, bien sûr, Nathalie Romero, Sarah Masson, Alexia Lacour aujourd'hui avec nous, mais bien sûr, ça bosse. Allez, allez, c'est parti.
Tu veux un verre ?
Your daddy, Kid Creole and the Coconuts. Dites donc, ça va vous deux?
Oui, on fait des blagues qui font là.
J'ai l'audio visoré qu'on vous dérange.
Pardon, madame, pardon.
Ah, oh, je vous jure. Alors, Nicolas Chaban est avec nous, c'est le créateur des gueules cassées, qu'on appelle aussi fruits et légumes moches, et c'est qui le patron, la marque du consommateur, la brique de lait, qui prouve qu'avec avec les réseaux et sans pub, on peut lancer une marque de lait. Et je rappelle aussi qu'il y a parmi tous les producteurs qui vous fournissent ce lait, il y a notamment 5 producteurs qui s'étaient fait foutre à la porte du groupe Lactalis parce qu'ils avaient témoigné dans Envoyé spécial, vous les avez récupérés. Et ça fait du très très bon lait. Voilà. Nicolas Chaban est avec nous et pour
l'entourer.
Bah,
les chroniqueurs cassés qu'on a récupérés, que plus personne voulait.
Les moches.
On a Guillaume Meurice, on a Hippolyte Girardot et on a Juliette Arnaud.
Oui. Eh oui.
Eh oui, c'est comme ça.
C'est l'heure du flash très très spécial.
Nous ne céderons rien à l'ironie.
Le grand mot.
Le journal de presque 17h17.
Voyons l'anarchie.
Et on commence par les titres.
Emmanuel Macron reçoit donc Vladimir Poutine à Versailles.
Oui, vu l'argent qu'il lui doit, on imagine que Marine Le Pen est restée très très loin, dans un rayon de 300 km à la ronde.
Colombey les deux églises, oui. Ce week-end la tombe du général de Gaulle a été dégradée.
Oui, sale année pour le général dont la mémoire avait déjà été dégradée par François Fillon.
Et des brèves cassées ou
pas ? Oui, il y en a même une, j'ai dû la relire deux fois tellement elle était bien. Et on commence donc par François Fillon.
Oui, qui s'est rendu chez les juges ce matin.
Et on espère qu'il a bien retenu l'itinéraire, parce qu'il risque de devoir le refaire souvent.
Apparemment, il était censé venir avec les dossiers traités par Pénélope Fillon.
Oui, c'est pas fait un lumbago, hein, je peux vous dire.
Au centre, Benjamin Griveaux, oui. Le porte-parole de La République En Marche, eh bien, il a dit... Il n'est pas question de covoiturage avec les Républicains.
Évidemment, hein, En Marche, pas de covoiturage, c'est bien normal.
Quant à Emmanuel Macron, oui. Il s'amuse à l'international.
Oui, il était en réunion avec le G7 ce week-end et il y avait de la cohue autour de lui, alors bah, il a fait une petite blague.
Allez, on avance.
Et bim, je fais l'imitation de Jacques Chirac et je me marre de ma propre blague. Et il est tranquille, il est content d'être là.
Passons à Manuel Valls. Oui. Selon le baromètre Odoxa, il a pris la tête du classement des personnalités politiques suscitant le plus fort taux de rejet.
Mais c'est pas de bol, c'est la première fois qu'il termine premier d'un truc.
C'est vrai. Vous prenez les politiciens cassés aussi, ou pas ?
On y réfléchit.
Il y a de la récup à faire.
La justice a rendu son verdict dans l'affaire de Thomas Thévenoud et de sa phobie administrative. 3 mois de prison avec sursis et une peine d'inéligibilité d'un an.
C'est dommage, ils auraient pu le condamner à faire des travaux d'intérêt général au guichet d'une préfecture. Ça, ça aurait été vraiment rigolo.
L'eurodéputée Janice Atkinson du UKIP, dans le groupe du Front National, réclame la peine de mort pour les auteurs d'attentats suicides.
Voilà, la peine de mort pour les auteurs d'attentats suicides. Je pense que c'est leur Nadine Morano à eux.
Et en Australie, à cause de la hausse des températures de l'eau, la grande barrière de corail subit un blanchissement plus grave que prévu.
Ah, c'est à cause de l'environnement qu'il y a des problèmes avec le corail.
Oui.
Ah, c'est pas la SNCF.
Excellent jeu de mots sur la SNCF, Alex. Mais non, pas besoin de vous.
Ah, ils font des jeux de mots, la SNCF.
Non, la SNCF annonce que les TGV classiques s'appelleront désormais Inouï.
Inouï, ah oui, un hommage sans doute au montant de la facture de l'agence com qui s'est occupée de ce renaming et qui lui aussi est sans doute Inouï.
Fait divers, en Corse, un homme a appelé la police car il soupçonnait un autre de prier sur la plage. En arrivant, la police a constaté qu'il faisait du yoga.
Oui, mais il aurait crié Lotus Akbar à un moment, on l'a entendu.
Culture, le festival de Cannes s'est donc terminé hier.
Oui, on va pouvoir reparler des films français qu'on ira voir, hein, Camping 4, Les Tuches 3.
C'est Joaquin Phoenix qui a reçu le prix d'interprétation masculine, et comme il était persuadé de ne rien remporter, il est venu en basket.
Ouais, mais si ça se trouve, c'est ça qui porte chance. Hein. Donc si les tennismans français viennent à Roland-Garros en mocassin, peut-être une chance du coup.
Justement, Roland-Garros a débuté hier.
Oui, et ça va réjouir les macronistes puisque pendant une semaine, les gens vont regarder à droite, puis regarder à gauche, puis regarder à droite, puis regarder à gauche.
Ils passent en bref.
Oui, alors les brèves, attention. Allez. Avec ce titre, elle passe de non-tibétaine à maîtresse SM. Voilà donc une militante de la non-violence qui maintenant se fait payer pour des fessées. C'est beau, c'est comme si Christine Boutin couchait avec sa cousine.
Quand même. Oui. Et celle-là, c'est la brève qui vous a impressionné,
ça? Non, c'est la suivante. Ah, j'ai encore mieux. Attention, Alaska, il tente de se suicider, la balle le traverse et tue sa petite amie.
Ah, ça c'est impressionnant. Ça.
Je jure. Voilà, l'Américain de 21 ans, originaire d'Alaska, est jugé pour meurtre après la mort par balle. Elle a traversé sa tête et fini dans le torse de sa compagne. C'est ce qu'on appelle, je pense, la roulette saoudienne. C'est-à-dire qu'on tue sa femme, mais on prend le risque aussi d'y passer. faut voir la photo, il a un casque. Traverser le...
D'accord.
Ouais, c'est... Bah, faites gaffe, quoi. Si elle veut suicider.
Ne faites pas ça chez vous. À la place, écoutez France Inter, car vous y êtes. En compagnie de Nicolas Chaban, le créateur de la marque C'est qui le patron, la marque du consommateur. On va aborder le premier sujet avec vous qui n'a rien à voir avec le lait ni le jus de pomme qu'on est en train de déguster. Hein. C'est des fruits moches, mais qu'est-ce que c'est bon. Hein, avec un peu de vodka, ça passe aussi. Mais
On ne peut pas dire ça.
Premier sujet, Vladimir Poutine a été reçu à Versailles. Bon, à l'Elysée, on est à l'étroit, et dans la maison du Touquet, c'est le jour où passe la femme de ménage, donc c'est pas possible. En octobre dernier, François Hollande avait signifié à Poutine, qui n'était pas très attendu, en tout cas Poutine avait annulé, pour repartir sur de bonnes bases, les équipes Macron ont sorti le grand jeu pour le déjeuner de ce midi.
Alors, moi, j'avais pensé à agrémenter chaque table d'un grand bol de fruits de saison.
Oh, Benec, qu'est-ce que vous aviez prévu?
De la viande et de la viande, cuite dans sa graisse.
Bon, voilà.
Forcément.
Et puis, alors voilà, alors éventuellement, pour ceux qui veulent, une ou deux corbeilles de fruits.
De toute façon, ils viennent pas pour bouffer non plus, hein, c'est un sommet politique.
Ce qui n'empêche pas de bien recevoir.
Non, mais vous faites pas de cheveux là-dessus, j'ai compté 3 porcs par personne.
3 porcs?
Non, mais laissez faire, je connais les loustiques. Par contre, là où je suis un peu ennuyé, c'est que j'ai plus bien de budget pour les gonzesses.
Non, mais j'y tiens pas, je vous assure.
Sire, c'est vrai que je suis pas très friand non plus, mais s'il y a pas des gonzesses...
Eh ben, vous avez passé pour des...
Pour des quoi ?
Eh ben pour des qu'on peut pas se permettre de passer pour.
Ah, voilà. Comme quoi la Tchétchénie est sur la table, hein, c'est sûr. Voici un extrait de Kaamelott, donc la série d'Alexandre Astier. Nicolas Chabannes, ça vous inspire une réflexion, cette rencontre entre celui qui se rêve en tsar de toutes les Russies et le président jupitérien, le tout qui se fait à Versailles, plus précisément au Grand Trianon, mais il y a quand même un faste, le faste le plus fastueux qui soit en France. Il n'y a pas mieux.
J'ai un peu révisé, donc je vais passer pour quelqu'un qui sait beaucoup de choses, mais j'ai pris les infos avant. C'est vrai que, d'après ce que j'ai compris, il vient parce qu'il y a 300 ans, année précisément, il y avait le fameux Pierre le Grand. C'est ça, hein, c'est vrai que la question que je pourrais me poser, c'est est-ce qu'il vient vraiment pour simplement visiter ce beau musée, là, cette expo ? Auquel cas, effectivement, ça fait cher de l'heure présidentielle. Il va servir de guide, notre président. Ou est-ce que, et c'est un petit espoir, est-ce qu'il n'est pas en train de se dire, il y a un nouveau président, je ne perds pas finalement la face, il y a un peu d'orgueil chez les politiques, à me remettre dans le sens de la marche.
À refaire coucou l'Europe.
Voilà, on refait coucou. Ça, c'est le rêve que j'avais en deuxième possibilité. Je ne sais pas, on verra dans les prochains jours.
Cette rencontre, ça repose toujours la fameuse question, comment parler à Poutine ? Ça vous arrive des fois de vous dire parce que monsieur est allé faire la promotion de la fraise de Carpentras jusqu'à l'Elysée. Admettons que vous ayez un tuyau pour aller parler de votre brique de lait, la marque du consommateur, jusqu'à Moscou. Ou tiens, justement, qu'il y a un embargo sur l'alimentaire français, notamment les pommes, les producteurs de pommes ou de poires qui ne peuvent plus exporter en Russie. Si vous deviez aller... Comment parler à Poutine ? C'est une question que tout le monde se pose.
La fraise, c'était le passeport génial. C'est-à-dire que quand vous avez des fraises, je me rappelle au Festival de Cannes, on était avec la confrérie de la fraise, puisque j'en fais partie, tout le monde habillé en fraise. Et au loin,
il y a des photos quand même.
Non, mais parce qu'il fallait que je réponde aux journalistes, ils m'en ont toujours voulu, mais bon, j'avais ce rôle-là. Et au loin passe Penelope Cruz. C'était compliqué de la faire venir sourire ou un argument. Et bien, il y avait un énorme panier de fraises et elle s'est approchée naturellement de nous parce que c'est le fruit de l'enfance, etc. S'il reste un petit bout de cœur qui vibre comme ça chez le président Poutine, on peut lui proposer de faire comme ça une dégustation de fraises. Nous, on est tout à fait prêts à faire.
Oui, c'est vrai. Voilà, faut chercher peut-être chez Poutine l'enfant qui sommeille en lui.
Il ne faut pas lui parler comme Sarkozy lui a parlé il y a quelques années, quoi, parce qu'effectivement, l'autre, il l'a calmé direct. Donc, il faut peut-être parler de la fraise.
Alors, en tout cas, tout ce déploiement, ce faste, etc., ça sert aussi évidemment à calmer le jeu. D'un coup, les médias russes trouvent Macron plus sympathique, puisque en Russie, personne n'avait misé un copec dessus. Donc, c'est très français, ça. Pour bomber le torse, on montre le faste, on revient sur l'histoire.
Là, c'est génial, franchement. Il a déjà gagné quelque chose, Poutine. Il vient, accueilli à Versailles, comme l'était son dieu, parce que Pierre le Grand était pour lui une figure historique importante. Donc il est déjà dans quelque chose qui lui convient. Bon, après il aura le bonus éventuellement de quelque chose d'autre, mais c'est là où le président Macron sera peut-être bon, il va l'amener sur une piste nouvelle, on verra.
Est-ce qu'il aura été ferme, ça ? Est-ce qu'un jour on le saura ?
Peut-être un coup à faire de la vodka avec des pommes de terre cassées. Et là, les marchés
vont
sourire.
Des pommes de terre, vous êtes sûr ?
Dans la vodka, oui.
Ah oui, d'accord. À fond, bien sûr.
Ah, c'est vrai ?
C'est de l'alcool de patate.
Ah ouais ?
Ah ouais.
On apprend des choses dans cette émission.
Il faut pas que boire, il faut lire l'étiquette aussi, de temps en temps.
Bon, Hippolyte Girardot. Ah, attendez. Tiens, si vous voulez, c'est le micro. On est assez fou pour ça, c'est l'audace.
J'ai essayé de faire un truc pas trop cassé. Alors, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est Charline. Faut que je me trouve une petite chronique. J'allume la radio, il y a Pop & Co. J'entends l'intro de Sgt Pepper's Hot Club Band. Je m'en rappelle comme si c'était hier. La pochette et les fausses moustaches. J'avais 12 ans et un vieux pick-up. La musique a commencé, et ça y est, j'étais parti. Eh oui, vous avez remarqué, comme moi, on célèbre le cinquantenaire de l'album des Beatles, l'orchestre des chœurs solitaires du Sergent Poivre, excellent titre s'il en est. Excellente opération marketing orchestrée par Paul McCartney, grand, très très grand musicien et remarquable homme d'affaires. Un anglais, en somme, Lord qui plus est. Car évidemment, il y a un avant et un après Sgt Pepper. La musique pop n'a plus jamais été la même et on peut sans crainte dire que ces 13 chansons ont ouvert la voie à la world music, à peu de choses près, l'équivalent musical de la globalisation mondiale. Mais évidemment, cette œuvre n'aurait pas eu le même retentissement en apparaissant le 1er juin 67 qu'un an avant ou un an après. Car cette date marque le début, en tout cas, une sorte de début du fameux Summer of Love 67. La génération née après la guerre, les baby boomers, sont devenus adultes dans les années 60 et se sont retrouvés dans un petit quartier en 67 de San Francisco, Haight Ashbury, à fumer des joints plus longs que leurs cheveux, à expérimenter des drogues inventées par des Suisses et distribuées par la CIA, à manifester contre la guerre du Vietnam où 500 000 d'entre eux se battaient pour une cause perdue d'avance et à inventer, oui, inventer un monde utopique dans un petit quartier de cette ville.
Ah, ça vous plaît ça.
Eh oui, eh oui, ça me plaît. Ces fameux activistes, les diggers, ça veut dire ceux qui labourent, ceux qui creusent, y avaient ouvert un hôpital spécialisé dans les problèmes liés à la drogue et aux maladies vénériennes, et des restaurants qui offraient de la nourriture, probablement faite avec des légumes moches, le tout gratuitement. Ce mouvement inattendu pour le moins, dont l'ampleur fut immense, fut enterré par ces mêmes diggers le 6 octobre 67. L'enterrement d'un hippie fut un grand événement, célébré avec un cercueil qui parcourut le quartier. Ensuite, chacun se dispersa et s'éma dans le nord de la Californie. C'était la première fois, ce Summer of Love, qu'un événement spontané, pas politisé mais très politique, surgit dans l'espace public à ce point. Mai 68, Nuit debout, Occupy Wall Street sont des enfants, d'une certaine façon, de ce Summer of Love. Évidemment, ce sont des enfants parce que c'est normal, parce que le sexe était un sacré truc à cette époque. Oui. Oui, c'est ça. Eh bien, Anne-Sophie Ladonne a retrouvé la fameuse cassette de la nuit d'amour entre Jimi Hendrix, Janis Joplin, qui étaient voisins à ce moment-là, dans la même rue. Hein? Où était-ce? Oui, bon, on va juste écouter, Anne-Sophie. On va pas dire où est-ce que vous avez trouvé cette petite cassette. Hein? Mais je vous félicite. Merci beaucoup. Écoutez ça. C'est merveilleux. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est le Summer of Love.
Girardot,
je me souhaite un Summer of Love 17 aussi exaltant.
Oh oui! Avec Nicolas Chaban, qui est notre invité. Ça, il ne s'attendait pas, mais il va faire un Summer of Love avec nous, du coup. Merci, Hippolyte. Là, j'envoie de la musique. Voilà.
Ah, bravo, ça marche. Hein.
Si je cache mon sourire au bout de ma langue, syllabe qui tremble. Mais comment choisir le plus fidèle, le plus riche, le plus beau de tous les mots? Des émotions fortes, tout briser la magie des premiers instants. On pourrait se contenter de citer les plus grands, mais avouons que parfois les mots ne sont pas à la hauteur des sentiments. Mais même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. J'aime, j'aime, j'aime quand tu es là. Embrasse-moi. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. Crique-toi, crique-toi. Toutes mes paroles s'effilent quand tu me scotches. Ma voix stoppée dans sa course, je chute en plein élan. Tes yeux de sniper m'ont ciblé dans le viseur. Un point rouge placé sur mon petit cœur qui battit fort.
Onomatopée, enfin celle de Mes Sparrow, sur France Inter, la playlist, programmation musicale Djoubaka, et nous sommes en compagnie de Nicolas Chaban qui nous a apporté, je vous fais écouter.
C'est le cri de la céréale.
Oui, c'est des céréales, tous anti-gaspi, ça s'appelle moins de gaspillage, plus d'économie, c'est des céréales de grands fabricants, ayant de petits défauts d'aspect, mais autant de goût, et en plus il y a l'air d'avoir plus de chocolat et dedans.
Vous avez aussi sur les Lamborghini, hein, vous récupérez les Lamborghini, il y a une griffe.
Aussi.
Nicolas Chaban, c'est le créateur de la marque, c'est qui le patron? Vous avez la brique de lait, la fameuse brique de lait citoyenne, et les gueules cassées, c'est les légumes, fruits et légumes moches, comme on dit. Mais les gueules cassées, c'est plus sympa quand même, non? Tiens, gueule cassée, Guillaume Meurice.
Ah bah voilà la transition, bah, bravo. Eh ben, on a des nouvelles du pays des droits de l'homme aujourd'hui, puisqu'il accueille Vladimir Poutine à Versailles. On est le pays de la déconne ou pas?
Oui.
Eh oui, on est le pays de Cyril Hanouna et de Michel Leeb, hein, ne l'oublions pas. Nous sommes également le pays qui a participé au G7, il y a quelques jours. Le G7, hein, c'est le club VIP des pays. C'est comme en boîte, hein. T'as tous les autres pays qui voudraient bien rentrer, mais ils sont en basket. Enfin, plus exactement, ils fabriquent des baskets pour les autres. Mais le pays des droits de l'homme, c'est nous, et c'est aussi celui d'Alice Gautreau, qui travaille sur l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée, qui porte secours aux réfugiés au large des côtes libyennes et italiennes. Elle est plus précisément sage-femme pour Médecins Sans Frontières. Et Alice, je l'ai contactée ce matin.
Ça fait un an maintenant que je travaille pour MSF. Et puis, après ma première mission, j'ai remarqué qu'ils avaient besoin d'une sage-femme sur le bateau.
Bon, est-ce que c'est quand même pas un moyen de passer du bon temps en Méditerranée au soleil?
Non, mais grave, c'est exactement ça. Je veux dire, c'est la croisière s'amuse, quoi.
Ben voilà. Non, mais bien sûr. Alors, heureusement que la communauté internationale prend la situation des réfugiés très au sérieux, puisque l'ONU s'est réunie la semaine dernière et la conclusion du rapport est sans appel. Je cite, « Les gens qui meurent, c'est quand même pas très très cool. » Fin de citation. Voilà, c'est violent, mais ça fera réfléchir les dirigeants. L'ONU qui est un petit peu au monde ce que le CSA est à la télévision, hein. Parfois ils font les gros yeux comme ça, ouh, ouh, mais c'est parce qu'ils ont trop bouffé à la cantine et qu'ils font de l'aérophagie. En attendant, Alice est toujours sur le pont à aider les personnes en détresse, quitte à être accusée de passeur par certains et certaines.
On n'est pas des passeurs, on sort des gens de l'eau parce qu'ils sont en train de mourir.
Ouais.
Je les connais pas, quoi, les Libyens. Ça se trouve, ben, on a le futur Nadine Morano, le futur Éric Ciotti.
Aïe, 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 ouais, c'est ça.
En fait, on est hyper irresponsables.
Mais tu m'étonnes. Attention à qui tu sauves, Alice. Hein. La France ne peut pas accueillir tout le déficit neuronal du monde. On est complet, là, hein, niveau rachitique du bulbe. On en a plein les postes à responsabilité. Je vous rappelle qu'on n'a jamais vu Éric Ciotti avec un rhume de cerveau. Coïncidence, hein, je ne crois pas. Mais c'est vrai qu'Alice, elle aime bien, voilà, sauver des gens, quitte à en agacer d'autres. D'ailleurs, en parlant de ça,
est-ce que vous avez quand même conscience du tort que vous causez à des personnes comme Laurent Wauquiez ou Nadine Morano?
Ben écoute, je vis avec, quoi. Je viens me coucher la nuit, puis j'ai une petite pensée pour Nadine.
Voilà, nous avons tous une petite pensée pour Nadine. Nadine, elle peut toujours se dire que si ça se trouve, Alice, elle sauvera une personne encore plus noire qu'une personne plus noire qu'une arabe. Et elle deviendra sa nouvelle amie, hein, la fameuse, comment on appelle ça, un ami prétexte. Hein, vous connaissez le principe, j'ai rien contre les maniaco-dépressifs, j'ai un ami qui joue dans des films français, etc., etc. Ça se décline hyper rapidement. Poursuivons et essayons de comprendre la motivation d'Alice.
Pourquoi vous bossez pas, vous, personnellement, dans une clinique privée? Macron, il a dit que tous les jeunes devaient rêver d'être milliardaires, alors pourquoi pas vous?
Parce que je me suis dit que j'avais suffisamment d'argent comme ça, et puis peut-être que tout le monde n'a pas envie de subériser, quoi.
Oh là là, mais quelle ringarde, cette Alice, il faut subériser, rien. Mais il faut faire de la thune. C'est le président jupitérien qui l'a dit, c'est quand même pas rien, il est jupitérien, merde. À mon avis, c'est même Jupiter qui est macronien. Bon, alors bon, rendre... excusez-moi, non mais ça m'agace. Alors, rendre leur dignité aux gens en détresse, d'accord, mais ça compte pas dans le PIB, et puis rendre leur dignité aux gens jusqu'à un certain point.
Là, par exemple, on a fait le débarquement, et au moment du débarquement, ben, il y a le ministère de la Santé qui monte sur le bateau et qui donne des combinaisons blanches aux gens qui ont la gale, parce qu'il y a pas mal de gens qui arrivent avec la gale. Pour un Africain qui adore se saper super bien, quand tu descends d'un bateau, t'arrives en Europe et bam, tu portes une putain de combinaison blanche.
Pour le style, ça craint un peu, quoi.
C'est super ironique, quoi.
Oui, c'est ironique, mais s'il y a bien un mec sur Terre qui peut pas tellement se moquer de la manière de se fringuer, c'est moi, alors ça m'arrange pas. C'est vrai que même si tu mets une combinaison anti-gale à côté, t'es quand même Kate Moss, hein, à côté de moi. D'ailleurs, elle le sait, Alice, elle connaît notre émission et figurez-vous qu'elle aime beaucoup Juliette Arnaud. Et ça tombe bien, parce que Juliette, elle a quelques problèmes de dignité, hein, notamment le week-end vers 23h. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose, Alice?
Bah pareil, si elle se retrouve dans un bateau au large de la Libye, je la prends à bord avec plaisir.
Surtout si elle se retrouve dans l'eau, parce qu'elle aime pas trop l'eau.
J'ai beaucoup de médicaments pour le mal de mer, et ça marche aussi pour la gueule de bois.
Voilà, je vous transmettrai les coordonnées, c'est aussi ça la solidarité. Hein, c'est pas tellement à la mode d'ailleurs en ce moment la solidarité, puisqu'aujourd'hui si on tend la main à quelqu'un, c'est essentiellement pour lui mettre en travers de la gueule. Alors est-ce que Alice, elle a pas la sensation d'aller à contre-courant?
J'aime bien aller à contre-courant. En anglais, ils disent « seuls les poissons morts vont avec le courant ». Bah moi, je suis pas un poisson mort.
Voilà, et contrairement à plus de 5000 migrants hein, morts en Méditerranée en 2016, plus de 1000 déjà depuis le début de l'année. Pensez-y cet été à la plage, hein, en jouant au sudoku. Si vous tombez sur un os, c'est peut-être un vrai. En attendant, merci à Alice et à ses amis de nous réconcilier avec l'espèce humaine. Peut-être qu'un jour, notre pays cessera l'hypocrisie des droits de l'homme et deviendra celui des devoirs de l'homme envers son prochain.
Merci Guillaume Meurice et merci beaucoup à Alice qui est notre nouvelle héroïne.
Mais
elle est
formidable,
en plus elle est pleine d'autodérision.
Et ouais.
On l'embrasse parce qu'il paraît qu'elle nous écoute.
Elle nous écoute, bisous Alice et merci.
Ça parvient jusque là.
Ouais, elle nous écoute
c'est
un dingue. Podcast.
Mais elle est extrêmement jeune surtout.
Ah, je sais pas quel âge elle a, tiens, bonne question.
Bon, on va la rappeler.
Elle passera nous voir à l'émission, elle m'a promis.
Très bien.
Qu'elle fasse pas écouter aux migrants, ils vont tous être de gauche en arrivant.
Merci Guillaume. Nicolas Chaban est avec nous, le créateur de la marque C'est qui le patron, la marque du consommateur. Et on va aborder avec vous un sujet qui vous titille aussi. Parce que ça y est, tous les artisanats sont ubérisés. Oui, il existe des plateformes numériques pour vous mettre en relation avec des particuliers. Attention, c'est des particuliers surtout, doués en jardinage, coiffure ou plomberie. Ça s'appelle l'économie de la demande de service. C'est réactif, c'est pas cher, mais à vos risques et périls.
Mais pourquoi il est pas protégé avec des bâches, mon sol ?
À cause des courants d'air. Du coup, les bâches du sol, on les a mis aux fenêtres.
Les bâches du sol, elles sont aux fenêtres, et la peinture de mur, elle est au sol. Mais elles sont où, les fenêtres, qui devraient être à la place des bâches ?
Les fenêtres, elles sont avec les portes dans le jardin.
Qu'est-ce qu'elles foutent posées dans le jardin ?
Bah avant, elles étaient posées dans l'escalier, mais comme on pouvait pas passer avec les matériaux, du coup, on les a posées dans le jardin. Mais vous faites pas de mouron, le gars qui vous les a livrés va vous les poser, vous portez vos fenêtres aux portes et aux fenêtres.
Et pourquoi il les a pas déjà posées ?
Parce qu'il a eu un petit accident, il s'est pris une porte.
Comment il aurait fait pour se prendre une porte, il n'y en a aucune de posée.
Justement, il s'est pris une porte dans l'escalier en voulant la poser dans le jardin.
Danny Boone, Laurent Gamelon, Zinedine Soilem dans La Maison du Bonheur. Remettez-vous Hippolyte. Voilà, alors c'est une petite tribune qui est parue ce week-end dans Le Monde de la part d'un économiste, professeur d'économie à Lyon, et qui s'inquiète un peu de ces plateformes, et il y en existe plusieurs, qui mettent en relation les particuliers. Donc c'est-à-dire que vous avez un problème de plomberie, et si votre plombier il met 4 plombes justement à venir, vous appelez un particulier qui est, semble-t-il, doué, mais dont on ne sait pas, qui n'est pas un artisan, qui n'est pas un professionnel du domaine. Ça existe pour le jardinage, la coiffure, etc. C'est au-delà du bouche à oreille, c'est vraiment organisé en plateforme. Moi, je me demandais, Nicolas Chaban, vous qui avez plein de bonnes idées citoyennes, est-ce que ça, c'est une solution qui vient d'en bas, qui apporte des solutions à des problèmes, mais est-ce que ça vous semble citoyen comme solution ?
Déjà, il faut se dire que c'est pas possible d'arrêter cette espèce de dynamique. Le digital est là, on peut se connecter très rapidement à son voisin. Comment voulez-vous à un moment donné que cette connexion, à moins qu'il y ait une loi qui l'interdit, hein, ne se fasse pas ? C'est pas notre souhait, hein, je dis pas ça parce que c'est un souhait, mais déjà c'est un premier constat. Après, il faut se dire une chose, on l'a vu avec les taxis. Au début, c'était, j'étais le premier à être solidaire des taxis parce que je me disais, mais comment vont faire tous ces gens qui ont, on va avoir moins de boulot ? Et on se rend compte que le fait de connecter, de créer du digital, de la réactivité, ça crée du marché. Par-dessus le premier marché existant. Donc il y a peut-être une possibilité pour qu'une famille de gens qui ne sont pas des professionnels puisse évidemment faire quelque chose là dans le cadre de ces nouvelles plateformes. Mais l'artisan historique, il faut qu'il se dise qu'il a un super outil pour montrer qu'il a de la qualité, qu'il sait faire autrement. Et puis à nous, les consos, de nous mettre au milieu, d'arbitrer, de poser des questions, d'accompagner, de soutenir ceux qui bossent bien.
Le professeur d'économie dans Le Monde dit que les pouvoirs publics doivent trancher. Le consommateur aussi peut trancher le choix entre le VTC ou le taxi, le choix entre appeler un plombier ou quelqu'un qui a reçu une bonne note sur le site.
Si vous reprenez le prisme, voyez, du consommateur, vous oubliez la loi, le fait de légiférer. Le conso se met au milieu. Il a besoin d'une petite chose. Il n'a pas besoin d'un plombier, c'est peut-être trop long. Il peut faire appel à quelqu'un de proche de chez lui. Maintenant, s'il veut quelque chose de plus qualifié, il aura les avis des autres, il va s'enseigner, il va regarder. C'est un vrai beau patron pour la suite. Il était un peu dans un coin du monde en train de simplement regarder au final ce qui se passait. Là, il peut être un peu en amont, là aussi.
Est-ce que ça crée pas de la concurrence déloyale quand même entre quelqu'un qui a un savoir-faire Et puis quelqu'un dont c'est vraiment la profession et qui vit de ça.
C'est Guillaume m'a pris un coiffeur comme ça. C'est quand même des
Sur le principe, c'est évident. On est tous d'accord pour dire que c'est dur pour des gens qui ont passé des années pour apprendre un métier et qu'ils font bien, de se voir en concurrence immédiate avec des gens qui sont des voisins et qui risquent de très mal le faire. On ne sait pas après ce qui peut se passer. Je dis juste
même s'ils le font bien, ils le font avec pas de charge ou moins de charge en tout cas. Donc il y a vraiment une concurrence à ce niveau-là.
Effectivement, les particuliers ne sont pas assujettis aux charges sociales.
Ça, c'est pas normal. Ça, on ne peut pas accepter cette idée-là. Mais il faut le mettre en parallèle de quelque chose qui ne s'arrêtera pas. On le sait très bien.
On doit faire avec. Il faut l'affronter.
Donc l'État, ça revient un peu à ce qu'on disait, l'État doit se mettre entre les deux et légiférer quand même.
Oui, avec le consommateur. Mmh. Parce que c'est important qu'il comprenne le consommateur ce qui se passe, qu'il valide, et il est capable d'aller aider l'artisan, qui est un peu dans la mouise, il l'a fait pour les producteurs de lait. Si à un moment donné, il comprend qu'il y a un enjeu pour quelqu'un qui connaît indirectement, qui est près de chez lui et qui est un vrai bon plombier, eh ben, je suis persuadé qu'il ira le soutenir.
Et puis l'autre question qu'on aura l'occasion de développer peut-être dans une enquête ou dans un autre débat, c'est si de se vendre d'être une solution face au chômage, mais ça développe aussi le job précaire et pas protégé. Et donc, comme quoi ce sujet est très très vaste. Nicolas Chabanne, à côté de vous, il y a donc Juliette Arnault, écoutée par Alice, donc nouvelle amie.
C'est ça, ma nouvelle amie.
Et qu'est-ce que vous lui conseillez quand elle sera de retour sur Terre?
Quand elle sera de retour sur Terre, et puis même, alors là, vraiment un bouquin à emmener avec elle, ça s'appelle « Les Mandibles 2029-2047 », écrit par Lionel Shriver. Parfait. Alors, qui est Lionel? Oui, Charline, c'est un homme. Eh ben non, brat! C'est une femme.
C'est du Chouven, ça, non?
tout à fait. Lionel, c'est une femme. Alors quoi? Pourquoi? Parce que ses parents, on peut supposer, ils lui ont fait un sale coup dès la naissance, histoire de lui apprendre à jour zéro que life is a bitch and then you die. Eh ben pas du tout, son père à Lionel était pasteur, certes, mais pas chef de secte. Non, Guillaume, c'est pas pareil. Enfin si, voilà, enfin, c'est pas le sujet. Donc les parents de Lionel, ils l'ont baptisé au départ Margaret Anne. Mais à 7 ans, Margaret Anne a décidé de devenir écrivain. À 8 ans, elle a estimé préférable de n'avoir jamais d'enfant. Et à 15 ans, elle a changé de prénom purement et simplement. Elle se rebaptise elle-même Lionel. Elle dit, maintenant, dans les interviews, Lionel Shriver, je n'aimais pas mon prénom, j'ai adopté un prénom masculin. Je ressentais le fait d'être une fille comme une limite. Je détestais l'association entre la féminité et les attributs supposés comme la préciosité, la faiblesse, la douceur et la passivité dans lesquels je ne me reconnaissais pas. J'aime autant vous dire que sa littérature, Lionel, elle est précisément à l'aune de ça, c'est même ça qui en fait le sel. D'habitude, Lionel, elle ne s'occupe que des trucs de son temps et exclusivement des sujets pas drôles. Pas léger, des trucs même super flippants, l'obésité, le cancer, ou être maman d'un tueur de masse adolescent. Hein, ça, c'était We Need to Talk About Kevin qui avait été adapté au cinéma. Lionel n'est pas une âme sensible, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'abstient pas. Elle gratte les plaies, les croûtes sur les plaies. On peut même dire qu'elle est cruelle, voire perverse, mais sa rudesse, son absence de concession dans sa dissection des croûtes n'empêche pas l'humour, ne soyez pas inquiets. Là, avec ce livre, donc, Les Mandibles 2029-2047, elle propose une dystopie. Pas de zombies, pas de tremblement de terre, rien de spectaculaire hollywoodien qui vous protège, hein, finalement, qui vous tient à distance de la peur. Non, avec Lionel, c'est toujours pareil. Hein, le principe de la croûte. Alors là, qu'est-ce que c'est la dystopie? C'est qu'en 2029, arrive une bonne petite grosse crise de la dette. Et alors là, ce qui vous est rigolo, c'est que c'est pas la dette des Grecs ou d'un pays africain. Non, 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 non. C'est la dette des États-Unis. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Le dollar, il n'est plus la valeur monétaire numéro un. Les Russes de Poutine et les Chinois en imposent une autre, qui s'appelle le bon corps. Et le résultat, c'est que les États-Unis s'effondrent gentiment, mais sûrement. La crise de 1929, à côté, c'est de la roupie de Sansonnet. Et l'histoire du bouquin, c'est comment la famille Mandible, des gens aisés, futurs héritiers sur 4 générations, va tenir le choc ou pas, telle est la question. Et oui, hein, la bonté des inconnus ne fonctionne pas toujours si la crise touche tout le monde en même temps, hein, trop de clim vitre ouverte. Et à ce moment-là, la dite communauté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'atomise en individus. Au centre du roman, un individu justement, le junior des Mandibles. Il s'appelle Willing, c'est un ado très observateur et introverti qui, bien avant les adultes, et ça c'est intéressant, prend acte de la situation et il comprend surtout que ça va pas revenir comme avant. Alors il s'endurcit face à sa mère, qui elle est une libérale progressiste, et qui s'inquiète de l'endurcissement de son gamin. Et elle lui dit « Tu as changé, Willing ». Et il lui répond « Je m'adapte ». Et elle lui dit « S'il te plaît, arrête de t'adapter ». Et il lui dit « Il meurt les animaux qui s'adaptent pas ». Et je trouve ça assez cool qu'elle mette un ado au centre de son histoire, cette femme qui a jamais voulu avoir d'enfant, en fait. Lionel Shriver est extrêmement fidèle à l'enfant qu'elle a été. Comme le bouquin vient de sortir, il est un peu cher. En revanche, tous les autres bouquins de Lionel Shriver, ils sont en poche. C'est toujours des lectures glaçantes, mais toniques intellectuellement. Quand il fait super chaud, c'est parfait. Voilà, bonne lecture, merci, bisous, merci.
Merci Juliette.
C'est chez Bellefond.
D'accord, très bien. Bon, rappelez toutes les références, comme ça les gens ont le temps de noter.
C'est chez Belfond, ça s'appelle Les Mandibles, une famille, 2029-2047, et elle, Lionel Shriver.
Merci Juliette. Nicolas Chaban, tiens, avant d'aborder le troisième sujet, cette brique de lait, cette marque citoyenne, vous allez vous lancer dans le vin bientôt, c'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure ?
C'est un appel. Nous, on répond aux appels. C'est-à-dire qu'en gros, pour le jus de pomme, des producteurs arrachaient des arbres pour 9 centimes.
Ouais, des appels qu'on peut lancer
voilà.
Où ?
Ils nous appellent. Et là, pour le vin, c'est valable dans le Languedoc, et au pied du Mont Ventoux, pas loin de chez moi, il y a le gel qui a fait quelque chose de terrible. Le gel plus la concurrence extérieure, ça met des gens en grande difficulté. Il nous amène dans les coulisses de la fabrication du vin. On comprend tout, c'est vraiment intéressant, c'est pédagogique. Et on va faire notre vin au contact de l'histoire du vin qu'on boira après.
Donc il y aura du vin, c'est qui le patron ?
Oui, mais c'est tout nouveau. C'est vrai qu'on
là, c'est qui le pochetron ça,
avec, ça, avec les moines du bar.
Je suis la marraine. Et pour lancer un appel, on va sur le site de c'est qui le patron.
Voilà, on nous appelle et on essaye d'aider des gens qui sont en difficulté.
Troisième sujet avec vous, Nicolas Chaban, l'audace. Hein, est-ce l'audace qui a permis à un employé de banque de devenir président ? Faut-il être prédisposé à en user ? Le Figaro pose la question et avance cette hypothèse. La capacité à prendre des risques naît notamment d'une bonne connaissance de soi. Démonstration avec une tranche d'audace.
Donc, maître, moi je viens vous voir parce que j'ai absolument pas la vie que je mérite et je veux plus jamais travailler.
En fait, je peux plus me contenter de la vie des autres humains. Moi, il me faudrait des domestiques, des amis photogéniques et tellement d'argent que les journalistes de la presse People m'attribueraient des fonctions comme DJ, hit girl, alors que je serais chez le coiffeur.
Camille Cotin dans Connasse. C'est un article du Figaro qui cite ce poème de René Char, lui-même souvent cité par Macron. Impose ta chance.
Serre ton bonheur. Va vers ton risque.
Ouais. À te regarder.
Il s'habitue.
Voilà, bravo. Vous avez dit tout le monde autour de la table.
C'est la phrase préférée des comédiens, apprentis comédiens du cours Florent.
Oui, et des chroniqueurs cassés, c'est vrai.
D'accord. On sait d'où Emmanuel Macron tire tout cela. Nicolas Chaban, pour réussir à faire ce que vous avez fait, à lancer cette marque consommateur, à faire atterrir, je prends toujours cet exemple, la fraise de Carpentras à l'Elysée, vous êtes plein de culots. Il faut une bonne dose d'audace.
Moi, je me suis rappelé pour l'Elysée, là, pour la fraise, ouais. Il y avait une réunion et on s'est dit, mais mon Dieu, il faut faire parler de cette fraise, elle est très bonne, il faudrait qu'on aille à l'Elysée. Tout le monde a dit, mais vous ne pouvez pas aller à l'Elysée, vous ne serez jamais accueilli à l'Elysée. Et donc là, effectivement, on s'est dit, mais finalement, si personne ne demande, ça nous donne encore plus de chances d'être accueillis. Mmh. On a appelé, je me rappelais, une dame qui s'appelle Madame Gastelu, je me rappelle encore.
De toute façon, c'est plus les mêmes.
Hein. Ouais, voilà. Non, mais elle était très bien, donc voilà. Et puis, on lui a dit, est-ce qu'on pourrait amener des fraises en début de saison pour en faire la promotion ? La réponse a été, je vais voir. Un jour après, mais oui, bien sûr. Donc on voit, finalement, les barrières, elles sont peut-être un peu dans nos têtes avant d'être bien réelles, quoi, ouais. Finalement.
Et votre audace, est-ce qu'elle vous a parfois joué des tours ? C'est-à-dire que pour avoir de l'audace, comme l'explique aussi l'article du Figaro, mais intuitivement on s'en serait douté, faut pas avoir peur de se prendre un gadin, quoi.
Ah ouais, voilà. Et d'ailleurs, quand on se lance, c'est marrant, on tombe beaucoup moins. Je vais faire une image de foot.
Allez-y.
Au foot. Non, mais c'est la seule qui me vient, donc elle est assez terrible. Mais si vous retenez vos coups quand vous jouez au foot, vous faites mal finalement. Quand vous jouez dans le rythme de tout le monde et que vous imposez votre rythme et votre vision des choses, ça passe beaucoup mieux. Donc on s'est rendu compte de ça. Et puis on a découvert un truc, nous, je m'en suis rendu compte au fil des journalistes me demandent de revenir sur les initiatives. C'est pas un travail sur soi, l'assurance ou l'audace. C'est de se rendre compte qu'en face de nous, il y a que des gens qui ont les mêmes problèmes, les mêmes complexes, les mêmes limites. Et finalement, se dire que, de façon bienveillante, si on se parle sans créer nos propres peurs et les faire rejaillir sur les autres, tout avance avec une simplicité incroyable.
On n'est pas plus con qu'un autre.
Nicolas Chaban, l'audace, c'est aussi de devenir un autre. On va vous proposer... un sketch.
Un rôle, hein. On vous impose le sketch de fin d'émission. Il vous tombe dans les mains parce que on a appris que la première consultation tatouage a ouvert ses portes en France à l'hôpital Bichat. Vous pouvez aller voir un dermatologue qui peut vous aider. Et les premiers clients, on peut dire ça comme ça, se sont rendus. Aujourd'hui, vous êtes le dermatologue et puis on va voir qui arrive dans le cabinet.
Docteur, bonjour. Faites quelque chose. Là, je peux plus m'afficher bras nus.
Faites-moi voir ça, monsieur Macron.
Voilà, c'est mon tatouage sur mon biceps gauche.
Vous voulez dire le biceps droit, non?
Ah merde, je sais plus. peut-être le biceps du centre, non?
Ça n'existe pas. Montrez-moi vos deux bras.
Voyez, c'est ici, là, je fais une réaction.
Laissez-moi lire, je suis socialiste?
Oui, voilà, j'ai dit ça en 2014 et maintenant je réalise que j'ai fait une erreur, quoi.
Bah, vous savez, j'ai l'habitude de ce genre de cas.
Ah bon?
Bah, Manuel Valls est venu enlever la même phrase il y a une semaine. Est-ce que vous voulez une ordonnance?
Ah oui, 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 les ordonnances, c'est mon projet! Excusez-moi.
Patient suivant, s'il vous plaît.
Oui, bonjour docteur. Attendez, faites vite parce que je suis attendue par les juges. Hein.
Qu'est-ce qui vous amène, Madame Le Pen?
Je me suis fait tatouer la France apaisée sur la fesse droite.
Pauvre fesse droite.
Ouais, le problème, c'est que je suis pas très apaisée, là.
Ça s'est pourtant à peine vu lors de votre débat face à Emmanuel Macron.
Qu'est-ce qui s'est à peine vu? Mon tatouage? Non, mais j'allais quand même pas montrer mes fesses à la télévision. Hein.
Bah, au point où vous en étiez, vous n'auriez fait peur à personne.
Hein? Même pas à Nathalie Saint-Cric?
Pensez donc, à le roupiller.
Et pour mon tatouage, on fait quoi là?
Bah, je vois que vous êtes déjà en fait. Vous êtes déjà fait enlever?
Oui, 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 c'était le visage d'un politicien français, oui.
Jean-Marie Le Pen?
Comment vous savez? Salaud, charlatan, macroniste!
Les charmantes patients suivants, s'il vous plaît.
Docteur, j'ai mal.
Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Fillon?
Je ne peux pas m'épiler les sourcils, sinon on va découvrir mon tatouage qui se cache dessous.
C'est-à-dire?
J'ai fait graver à ma très chère Pénélope mon bourreau de travail.
Alors gardez vos sourcils, si nécessaire, mettez vous-même de l'engrais.
Monsieur?
Madame Chirac, vous avez un tatouage à enlever?
Non, c'est pour en faire un, à mon mari.
Ah bon?
Oui, je voudrais sur sa main droite écrire « Je suis Jacques Chirac et je n'ai aimé que Bernadette toute ma vie » pour qu'il n'oublie pas. Nicolas Chabanne.
Oui, c'est parfait.
C'est parfait. Merci Nicolas d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle que dans vos supermarchés, vous pouvez acheter et boire du lait équitable, parce qu'il rémunère au juste prix les producteurs, que c'est le cas aussi avec le jus de pomme, avec des fruits qui sont moches mais qui sont délicieux. On a bu du jus de pomme pendant l'antenne, et c'est pas souvent. Et les céréales, tous anti-gaspi, c'est la marque de céréales aussi, qui sont juste un peu trop petites ou trop grandes, mais qui sont délicieuses aussi. Et voilà, c'est comme ça qu'on change le monde, en bouffant, en buvant, donc ça c'est chouette. Merci beaucoup Nicolas Chabanne, et on va laisser le mot de la fin au conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron.
Je te remercie de m'avoir laissé seul avec les Ruskov, ils m'ont fait boire des litres de vodka, on a topé, retopé, je sens plus mes doigts.